France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui sur la diplomatie dite du bon sens que Trump mène tambour battant, désormais en discutant directement avec Poutine sur l'Ukraine. Et puis, pour le débat, nous recevrons une neurologue et neurophysiologiste inquiète des effets de notre hypnose et notamment de celle des enfants et des adolescents devant les écrans. Écran, un désastre sanitaire, c'est le tract Gallimard que notre invitée vient de publier. Fidèle au serment d'Hippocrate qu'elle a prêté en devenant médecin, elle considère qu'il est de son devoir d'informer sur les risques des écrans. Le docteur Servan Mouton sera avec nous pour le débat, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Negarov sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Comment va votre dos, Gilles?
Mieux.
Mieux. Allez, on commence aujourd'hui par le mot de la semaine. Ce mot, c'est référendum.
S'il n'y a pas de majorité ici pour la voter, alors il faut aller au référendum.
Dans 3 mois, on présentera une proposition. Et moi, si elle ne peut pas être adoptée au Parlement, ce que je crois profondément, c'est qu'il faut qu'elle puisse être soumise à référendum aux Français.
Comment on devient français? C'est un très beau débat national. Alors évidemment, je pense qu'il doit être tranché par référendum.
S'il y a ce refus de s'attaquer à la récidive, peut-être que là, si les gouvernements n'ont pas assez de ce courage-là, bah allons vers un référendum.
Laurent Wauquiez autour de l'accès au titre de séjour, Gabriel Attal sur le modèle social français, Gérald Darmanin sur l'immigration, Éric Piolle sur la légalisation du cannabis, et on aurait pu en ajouter bien d'autres, des référendums pour trancher des sujets divers et variés, on l'a entendu. 20 ans après, le dernier référendum organisé à l'échelle nationale, c'était au sujet de l'Europe, et on s'en souvient bien, notamment Natacha, Gilles. Est-ce que c'est la solution, le référendum, à la grave défiance envers le personnel politique, mis à jour cette semaine d'ailleurs par le dernier baromètre de la confiance politique du CVPOF qui est très inquiétant.
Oui, quand on parle de la défiance politique, il y a un peu l'idée, c'est la tarte à la crème, et ça ouais. Fait des années, des décennies qu'on en parle, mais la dernière livraison de l'enquête annuelle du CVPOF montre à la fois que la situation est plus grave encore qu'hier, et surtout qu'elle est plus grave qu'ailleurs. Et il y a une triple crise, d'une certaine manière, qui est consensuelle. Crise de la politique, 74% des Français qui éprouvent de la défiance vis-à-vis de la politique, crise des institutions, 78% qui disent la situation institutionnelle est grave, et crise de la démocratie, 72%, la démocratie fonctionne mal. Et sur cette crise de la démocratie, on en comprend la nature, c'est-à-dire à la fois les dysfonctionnements de la démocratie représentative, pas assez efficace, pas assez connectée, et les insuffisances de la démocratie directe, les Français qui veulent dire leur mot. Est-ce que le référendum est la solution? Ça serait évidemment illusoire que de le penser. Est-ce que ça peut être l'une des touches du piano? Sans doute. Ça, c'est la théorie. Comment on connecte ça après à la pratique et à ce que l'on vient d'entendre des responsables politiques? Mon intuition est que nous nous approchons d'un référendum.
Qui a été un peu évoqué d'ailleurs par le président de la République le 31 décembre dernier.
Été évoqué sans utiliser le mot, on en avait parlé ici, et j'avais dit à l'époque qu'il fallait prendre au sérieux ce que disait Emmanuel Macron, parce que de son point de vue, il pouvait considérer qu'il avait intérêt à utiliser le référendum, que c'était la seule arme dont il disposait encore pour agir sur la scène politique nationale, que c'était un moyen de nourrir son bilan de renouveau démocratique après les conventions citoyennes et le grand débat, et que ça alimentait la légende de l'homme audacieux qui avance et qui réforme. Ça, c'était le 4 janvier. Depuis lors, il y a ce que l'on vient d'entendre. C'est-à-dire, quand on analyse le débat public, on voit que ce thème a été volontairement lancé dans le débat public pour à la fois accoutumer à l'idée, pour le faire vivre, pour le faire monter, et puis pour appréhender le terrain. Il faut avoir sur quoi les uns et les autres proposaient des référendums et ce qu'en pensait l'opinion. J'ajoute un dernier élément, c'est l'analyse du calendrier politique. Quand Emmanuel Macron peut-il organiser un référendum? Après le budget, c'est bientôt, et avant l'été. Quand on regarde ce qui s'est passé au dernier référendum et même dans les deux précédents, combien de temps se sont écoulés entre l'annonce du référendum et son organisation. 1992, le référendum sur Maastricht, 4 mois entre l'annonce et le vote. 2000, le référendum sur le quinquennat, 3 mois. 2005, le référendum sur le traité constitutionnel européen, 10 mois de débat. Si Emmanuel Macron veut organiser un référendum ou des référendums, on va y venir, avant l'été, ça veut dire que bientôt, nous aurons une annonce.
Alors, on n'a pas de boule de cristal, ni Gilles, ni moi, ni Natacha. On avait beaucoup parlé avec Emmanuel Macron de réarmement démographique. Est-ce que c'est un outil de réarmement démocratique que de revenir au référendum ?
Ça peut l'être s'il n'est pas justement utilisé une fois de plus pour contourner les problèmes. Parce que, pour l'instant, c'est ça que l'on observe et qui amplifie la crise démocratique. C'est-à-dire que pour éviter d'affronter cette crise profonde, à la fois des institutions, du pacte politique, on cherche à peu près tous les expédients. Et donc, le dernier en date, c'est le référendum. Il y a une crise de la démocratie représentative et elle est flagrante quand, sur beaucoup de sujets, les citoyens ont l'impression que la démocratie représentative et donc les députés ne parviennent pas à faire émerger ce qui va être conforme à la volonté des citoyens, à la souveraineté du peuple. Or, c'est ça qui se passe. Et il y a divers sujets où l'on voit bien un blocage, c'est-à-dire un décalage entre les décisions qui sont prises et les attentes des citoyens. J'ajouterais que ces blocages ne viennent pas seulement du décalage entre les représentants et les citoyens, mais viennent aussi de l'articulation, on en débat souvent ici, entre justement souveraineté du peuple et état de droit. Et il n'y aurait rien de plus dangereux d'abord que d'utiliser le référendum pour faire croire qu'on va dépasser tous ces problèmes-là sans analyser la nature de ces problèmes, l'impuissance politique, le fait que sur beaucoup de sujets, nous sommes pris dans des alliances, l'Union européenne fait que de toute façon, la souveraineté est limitée. Donc faire croire aux gens qu'on va, par magie, par la grâce d'un référendum, dépasser ces problèmes-là, est une absurdité et c'est ce qui risque d'arriver sur des questions de sécurité, d'immigration, si on se contentait d'un référendum. Il faut que ce soit derrière quelque chose qui soit réfléchi.
Vous dites que ça peut même être contre-productif, à savoir donner l'impression, alors qu'en réalité, et si je vous écoute, notre souveraineté sur des questions fondamentales est limitée par ailleurs.
Ça risque de fragiliser encore un peu plus les institutions. Le référendum est pour l'instant l'un des rares éléments. Il a été très abîmé par 2005. Pour l'instant, on se garde d'y toucher. J'ajoute une chose, c'est que quand les Français réclament un référendum, il y a derrière cette idée de davantage de démocratie directe. Mais pour cela, encore faut-il pouvoir choisir les sujets de référendum. C'est-à-dire que les votations suisses reposent sur l'idée que les citoyens peuvent faire émerger des sujets qui comptent pour eux, ce qui permet justement de combler le déficit parfois des représentants. Là, il ne s'agit pas de ça du tout. C'est-à-dire quand on voit surgir des idées de référendum sur les réseaux sociaux, par exemple, enfin, c'est complètement aberrant, sur la fin de vie, alors même qu'il y a consensus et que pour le coup, il n'y a pas d'écalage entre ce que veulent les représentants et ce que veulent les citoyens. C'est absurde. Le référendum doit être utilisé justement pour trancher un sujet où on a l'impression que la représentation nationale ne va pas réussir à trancher.
Gilles, en plus c'est un peu paradoxal d'entendre des députés annoncer un référendum comme si eux-mêmes étaient conscients de la limite propre de leur exercice et de leur expérience de représentants du peuple.
C'est une forme de lucidité dans la situation actuelle. Il y a la question de la démocratie représentative qui est quand même la question centrale sur la crise de la démocratie. Et donc, le référendum peut être un des outils de démocratie plus directe, de démocratie consultative, qui vient compléter et s'articuler avec la démocratie représentative. Il y a une dimension structurelle, une réflexion qui a été engagée, par exemple, par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui est l'idée que, par la loi, nous nous obligions, de manière annuelle, à organiser des référendums nationaux et des référendums locaux. On n'y est pas tout de suite, mais c'est une réflexion. Et puis, il y a la dimension conjoncturelle qui est le référendum ou les référendums, si plusieurs questions sont posées, de l'année 2025 annoncée par le président de la République. Et là, je trouve le dilemme devant lequel est le président, c'est qu'il faut politiser sans personnaliser. Politiser, c'est ce que disait Natacha, c'est-à-dire ne pas contourner les problèmes, c'est-à-dire que le ou les sujets qui sont posés tranchent une question qui est à la fois une question importante et une question conflictuelle. Je crois que ça, c'est la première condition. Et donc, il faut que ce soit une question réelle et pas une question factice. Sans personnaliser, ça veut dire que Emmanuel Macron doit choisir la question sans essayer de peser sur la réponse. Et ça, ça va être sans doute très compliqué. S'il ne fait pas ça, je pense qu'il prend un risque absolument considérable. D'une certaine manière, sa victoire, ça serait simplement le retour du référendum dans le débat public et pas la réponse qui lui est apportée.
Sauf que c'est impossible parce que on sait bien que dans un référendum, on répond d'abord à la personne qui vous a posé la question plus qu'à la question elle-même.
Je ne suis absolument pas d'accord. Bah, et ça, c'est l'argument de tous ceux qui n'étaient pas satisfaits de la réponse en 2005. Ah. Or, quand on regarde... Mais c'est vrai, ça fait des années qu'on entend ça. Un référendum, les gens répondent à la question. Or, il y avait eu un vrai débat. Et c'était un débat de fond, et les citoyens s'étaient investis.
10 mois de débat.
Ils ne se sont pas contentés de dire qu'ils en avaient assez de Jacques Chirac, à l'époque. Donc je crois qu'il faut faire confiance aux citoyens, et que les citoyens savent très bien...
Mais vous pensez vraiment que, quand on voit l'état de l'opinion par rapport à Emmanuel Macron en tant que tel, que les gens ne vont pas répondre à celui qui a posé la question, à savoir Emmanuel Macron?
Mais tout dépend de la question qui leur est posée. Justement, tout le problème vient du fait que, pour l'instant, la séquence s'est déroulée de telle manière que tout le monde est convaincu, et nous également, que, en fait, Emmanuel Macron a en tête de s'occuper de son héritage, restaurer un petit peu son blason. C'est la pire manière d'utiliser le référendum. C'est pour ça que je disais qu'il fallait faire attention à ne pas abîmer ce dernier instrument des institutions.
Gilles, est-ce qu'il est possible qu'on ne réponde pas au président de la République ?
C'est possible. C'est difficile, mais c'est possible et ça dépend à la fois de la question de ce sur quoi va être organisé le référendum et du débat, c'est-à-dire de la manière dont le président s'engage ou pas dans le débat lui-même.
Ben, si le modèle, c'est le général de Gaulle, à chaque fois qu'il organisait un référendum, expliquait que si la réponse était négative, il en tirait les conséquences personnel.
Si tel est le cas, la réponse est dans la question.
Mais tout dépend comment on le fait. Le général de Gaulle entendait par là qu'il se sentirait désavoué par le peuple et qu'il avait une certaine conception de la légitimité. Ça n'est pas la même chose que de n'avoir en tête que le plébiscite personnel.
Le grand face-à-face, le duel.
Au moment de la loi immigration, j'avais fait voter au Sénat une restriction du droit du sol qui ne devenait plus automatique. C'est-à-dire que c'était la disposition de Charles Pasqua. Un enfant né de parents étrangers sur le sol français, avant sa majorité, pour devenir français, on lui demandait un acte consenti, une déclaration de sa propre volonté. C'est cela qui, pour moi, est important pour ne pas devenir français par hasard.
Et si c'était lui ? Titre audacieux et original de Valeurs Actuelles cette semaine, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est aujourd'hui en plus lancé dans la course à la présidence des Républicains, ouvrant peut-être une nouvelle guerre des chefs. Natacha, on l'a entendu, que le créneau politique de Bruno Retailleau, c'est l'identité nationale. Est-ce que c'est porteur à la fois dans son propre camp, et puis, et si c'était lui, au-delà même, peut-être ?
Alors, première chose, j'ai une requête vis-à-vis de tous les journalistes. Je voudrais que, collectivement, nous admettions qu'il est interdit de titrer « Et si c'était lui » ou « Et si c'était elle », qui est devenu le titre le plus ridicule de tout le métier.
Ok, ça a été dit.
Bref,
bon, sur le fond.
Sur le fond, Bruno Retailleau incarne une part du champ idéologique français. C'est une part de l'opinion qui avait surgi de façon particulièrement visible au moment du débat sur le mariage pour tous. C'est ce qu'on peut appeler la frange catholique traditionnelle et libérale conservatrice, très conservatrice.
Dont l'incarnation a longtemps été Philippe de Villiers.
Exactement. Mmh. Aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau. Donc, que cette frange-là veuille se faire entendre est tout à fait logique et on voyait très bien depuis quelques temps que cette partie de l'opinion cherchait quelqu'un pour la représenter. Donc, c'est parfaitement logique que Bruno Retailleau trouve tout à coup cette notoriété et incarne quelque chose. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas forcément au Rassemblement National qu'il prendrait des voix, mais bien à Éric Zemmour, qui, à mon avis, a été celui qui portait cette frange-là. Il suffit de voir les scores qu'il avait fait à Versailles. C'est là que ça s'était incarné. Éric Zemmour a fait 7%. C'est à la fois beaucoup pour ce qu'il était, et en même temps, ce n'est pas énorme non plus. C'est-à-dire qu'il s'agit là, quand même, d'une part un peu restreinte de l'opinion française, dans la mesure où c'est quelque chose de très clivant et identifié si on prend la totalité de ce qu'incarne Bruno Retailleau. Après, qu'il se positionne sur des questions de sécurité, d'immigration, dont on voit bien qu'elle porte dans le champ politique, et justement bien au-delà de cette frange catholique traditionnaliste, là, évidemment que ça lui apporte une visibilité. Pour autant, je ne résumerai pas ça à la question de l'identité nationale. Pourquoi ? Parce que, justement, cette question de l'identité nationale, elle est en elle-même un sujet qui, pour ma part, ne me semble pas illégitime, si tant est qu'on la pose correctement. S'il s'agit d'essayer d'aller vers une identité qui soit celle d'une France catholique et blanche, c'est calamiteux. Mais qu'il faille avoir un débat, qu'a évoqué le Premier ministre, sur ce que signifie être français, me semble quelque chose d'assez sain, dans la mesure où nous ne sommes pas simplement des gens qui, par hasard, se retrouvent géographiquement sur le même territoire. Nous sommes une nation, et une nation qui n'est ni ethnique ni linguistique, Ernest Renan le rappelait, mais politique. Donc se poser collectivement la question, c'est intéressant. Ça ne se résume pas, heureusement, à la personnalité de Bruno Retailleau.
On parlait du référendum, Renan, la phrase c'est le plébiscite de tous les jours. Voilà. Donc c'est pas un référendum une seule
fois. Appuyer sur un leg de souvenirs communs. Voilà. Il faut pas oublier la suite.
Gilles, et si c'était lui, ce qui est intéressant aussi, c'est d'où ça émane, hein, c'est les valeurs actuelles, c'est un choix politique aussi de titrer sur ça.
Absolument. Bon, comme vous l'imaginez, je suis en désaccord sur à peu près tout avec Bruno Retailleau, mais j'ai pris beaucoup d'intérêt à me plonger dans Bruno Retailleau, si je puis dire, pour préparer cette émission. La caractérisation idéologique de Bruno Retailleau est relativement simple. Et d'ailleurs, c'est sans doute en partie aussi la raison de son succès. Natacha a dit un libéral conservateur ou un libéral réactionnaire. Il est libéral sur les questions économiques, conservateur ou réactionnaire sur les questions de société. D'une certaine manière, c'est pour moi la synthèse entre François Fillon 2017 et Éric Zemmour 2022. Ce faisant, il s'est construit un socle, c'est une espèce de trimaran, un socle central, les Républicains, et il prend aussi bien dans la Macronie que au Rassemblement National les raisons de sa popularité. Donc il y a un socle d'opinion et il y a, vous avez raison de le souligner, un socle médiatique qui fait campagne pour Bruno Retailleau. C'est la une de la nouvelle formule de valeur actuelle, le fameux « et si c'était lui ?». Mais c'est aussi 3 des 8 dernières unes du journal du dimanche et le seul ministre à la une du Figaro magazine depuis 4 mois. Donc, il y a ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en peu de temps, il vient quand même bouleverser le jeu politique. Aujourd'hui, en étant candidat à la présidence des Républicains, mais demain, en étant un potentiel candidat, on le voit, pour l'élection présidentielle, et c'est sans doute la première fois depuis 2017 que, émanant des Républicains, il y ait un adversaire potentiel à ce qu'a constitué Emmanuel Macron ou avec Édouard Philippe aujourd'hui. D'où, très intéressant, l'interrogation ouverte par Gérald Darmanin sur une procédure de primaire pour désigner un candidat commun du socle commun. Et c'est là où, je termine par là, j'ai trouvé un élément très intéressant, justement en réaction à ça, dans le long papier très intéressant, quoique un peu énamouré, de Tugnual Denis dans Valeurs Actuelles, où Bruno Retailleau, après avoir fustigé le « en même temps », c'est-à-dire le dépassement du clivage gauche-droite, dit, je le cite, « la tripartition de la vie politique, pour moi, c'est une connerie ». Si on veut interpréter ou expliciter ce que dit Bruno Retailleau, si la tripartition c'est une connerie, il faut revenir à la bipartition. La bipartition, pour Bruno Retailleau, c'est sans doute pas celle qu'avait esquissé Emmanuel Macron, les progressistes contre les nationalistes, c'est le clivage gauche-droite. Lui étant la droite. Et donc ça veut dire absorber le Rassemblement National dans la droite ou dans les droites. Alors non pas en s'alliant comme l'a fait Éric Ciotti, mais en essayant de pomper ses voix d'une certaine manière comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2017. Et c'est là où l'on revient au point de départ sur le positionnement de Bruno Retailleau, où je trouve qu'une des difficultés pour lui est que, d'une certaine manière, comme ministre de l'Intérieur, incarnant l'ordre, l'autorité, il pouvait élargir. Là où il va devoir parler d'autre chose, eh ben, quand il va être sur les questions de société, il risque de perdre notamment une partie de la Macronie. Quand il va parler des questions économiques et sociales, il risque de perdre une partie du Rassemblement National.
Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'à la fois, vous avez un Bruno Retailleau qui tente, vous l'avez dit, de pomper un peu les voix du Rassemblement National et même son esprit, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, mais j'ai aussi entendu, et c'est peut-être la réponse à ça, Jordan Bardella, qui désormais cite Nicolas Sarkozy comme une référence importante, y compris pour lui. Donc on voit bien que à droite, ça bouge et on se demande qui va remporter la mise. Natacha.
En un mot, très rapidement, Gilles disait que toute une part des médias fait campagne pour Bruno Retailleau. Il y a une autre part des médias qui fait campagne pour Bruno Retailleau. Ce sont tous les médias de gauche qui l'ont pris comme cible principale, comme s'il était le nouveau diable dont ils avaient besoin. C'est un cadeau extraordinaire qu'ils lui font de considérer qu'il est affreux parce qu'il parle de sécurité et d'immigration. Je pense qu'il faudrait peut-être y réfléchir. Deuxième point, je crois qu'il incarne quelque chose d'assez restreint sur le plan idéologique, du fait de ses positions économiques, mais surtout, ce qui m'inquiète, ce serait de réduire le débat, le futur débat que la France doit avoir, aux questions, justement, de sécurité, d'immigration et de société. Parlons de tout le reste, parlons d'économie notamment, de géopolitique. Et là, Bruno Retailleau n'est pas très loquace.
Le grand face-à-face, le duel.
Eh bien justement, parlons nous-mêmes de géopolitique pour le troisième sujet du duel, un sujet international avec la diplomatie à la sauce Trump. La semaine dernière, c'était Gaza, cette semaine, c'est l'Ukraine.
C'est une question intéressante. Je pense qu'ils doivent faire la paix, leur population meurt, et je pense qu'ils doivent faire la paix. J'avais dit que ce n'était pas une guerre dans laquelle il fallait s'engager.
Dans les échanges avec les journalistes, Donald Trump avance les centaines de milliards de dollars d'aide américaine à Kiev, une somme qu'il entend bien récupérés, notamment grâce à un accord sur l'exploitation de leurs terres rares. Il évoque des sondages défavorables au président ukrainien et le besoin d'organiser des élections dans le pays quant à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
Ça fait longtemps qu'ils disent que l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'OTAN et ça me va.
Trump qui discute avec Poutine, une première pour le président américain depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a maintenant 3 ans déjà. Et le sentiment, Gilles, que les Ukrainiens sont les grands oubliés des discussions de paix, grands oubliés et grands trahis.
D'une certaine manière, il y a peu de surprises dans ce qui est en train de se passer. Depuis l'entrée en fonction de Donald Trump, il fait exactement ce qu'il dit sur tous les sujets.
Ce qui peut paraître surprenant quand on se souvient de la campagne.
Alors, avec quand même deux problèmes, pour les résumer d'une formule, c'est le périmètre et les paramètres. Le périmètre, c'est ce que vous évoquez, le fait que on attaque par une négociation bilatérale entre Donald Trump et Vladimir Poutine, sans l'Ukraine, sans l'Europe. Les paramètres, sans doute l'élément le plus important, c'est avec d'emblée 3 abandons majeurs, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sa sécurité future avec la fermeture de la perspective de l'OTAN et même la fermeture de la perspective d'un engagement des armées américaines pour assurer et garantir la paix. Et puis, troisième élément, la respectabilité de Vladimir Poutine retrouvée de manière absolument magique, avec à la fois l'annonce d'une prochaine rencontre en Arabie Saoudite, une invitation aux États-Unis et même...
Et à Moscou, ouais.
Et même le rêve que la Russie revienne intégrer tout naturellement le G7 ou le G8. Ça ne s'appelle pas une négociation, ça s'appelle une reddition. Dans un papier d'analyse de ce qui s'est passé cette semaine à chaud, Dimitri Minik, qui est chercheur à l'IFRI, disait Le Kremlin est en passe d'atteindre les trois grands objectifs de la politique étrangère soviétique et russe. Démanteler l'OTAN, ce principal obstacle à l'expansion russe en Europe, déconnecter les États-Unis et l'Europe et maîtriser l'espace post-soviétique.
Natacha, on a en plus, vous avez employé le mot reddition, Emmanuel Macron hier dans le Financial Times a parlé de capitulation, l'idée qu'une paix avec une capitulation serait une très très mauvaise chose pour la suite. Est-ce que Trump nous laisse, nous, les Européens, seuls face à Poutine ?
Alors, non, je ne pense pas, et je nuancerai un petit peu ce que vient de dire Gilles, dans la mesure où je partage beaucoup de choses, mais premièrement, les discussions que lance Donald Trump font suite à des négociations qui existaient déjà entre l'administration américaine et la Russie. Il ne s'agit donc pas tout à fait pour Donald Trump d'abandonner immédiatement des arguments, mais de poursuivre une négociation en la faisant avancer. C'est pas exactement la même chose. Deuxième point, quand Emmanuel Macron dit qu'en effet, ce serait une capitulation si c'était sans l'Ukraine, il ajoute, l'Ukraine seule peut négocier avec la Russie. Mais tant que les Européens continueront à employer des mots dont ils savent qu'ils sont faux, qu'ils ne correspondent à rien, ils s'excluront des négociations. Dire que c'est l'Ukraine seule qui peut négocier, c'est irréaliste. Et Emmanuel Macron, quand il prononce cette phrase, sait pertinemment qu'elle est fausse. Dans l'histoire, hélas, on peut le déplorer. Les négociations pour sortir d'une guerre se sont toujours appuyées sur les puissances. Ça ne veut pas dire que je souhaite que l'Ukraine soit traitée comme a été traitée l'Europe après Yalta.
Non, mais la vraie
pas
question,
du tout.
Non,
mais oui, mais il la est question, évident Natacha, que les États-Unis sont l'élément clé et que ce n'est pas l'Ukraine toute seule qui va négocier.
Bien sûr, mais dans le cas des guerres passées, il y avait un vainqueur. Là, est-ce que la Russie a gagné la guerre ? On a l'impression qu'on déclare la paix comme on déclare la guerre du côté de chez Trump.
Mais bien entendu. Alors, c'est tout le problème. À ceci près que, dans cette discussion-là, justement, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, par exemple, est un élément de discussion et de négociation. Là aussi, on le sait depuis le début. Sans doute aurait-il fallu, dès le début, discuter justement des différents degrés. Par exemple, l'entrée de l'Ukraine dans une association avec l'Union européenne, ce qui n'est pas aussi dangereux pour la Russie que l'entrée dans l'OTAN, etc. C'est de tout cela qu'il faut parler. Or, j'ai l'impression que les Européens, depuis le début, se bercent d'illusions, expliquent que l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN, ne doit perdre aucun territoire. De fait, il faut acter le fait qu'il va y avoir recul et il faut le faire avec une exigence, c'est que l'Europe entre comme partenaire parce que elle va participer au maintien de la sécurité de l'Ukraine. C'est-à-dire que, hélas, en effet, Donald Trump n'en verra pas d'homme, c'est nous qui gérerons ça. Mais pour rentrer, j'y insiste, pour rentrer à la table des négociations, il faut arrêter les pétitions de principe, il faut faire du pragmatisme et de la puissance.
Gilles, dans l'art du deal dont se prévaut en permanence Donald Trump, il y a en général, quand on négocie, on met pas toutes ses cartes d'entrée. D'avoir dit d'entrée que l'Ukraine n'entrerait jamais dans l'OTAN, est-ce que c'est pas une manière quand même d'acter une forme de reddition ?
Ben, je crois que c'est le problème est celle-là. De l'entrée, c'est à la fois la manière dont Donald Trump est entré en négociation avec Vladimir Poutine, le fait qu'il y entre seul. Ça pose quand même la question de l'Europe. Je termine par là. Il y a quand même un sentiment d'humiliation. De l'Europe. On demandait à Suron quelle est votre principale activité. Il disait je déplore. À quoi il réduit l'Europe à déplorer. Elle paye ses faiblesses, capacités militaires insuffisantes. Ce que disait Natacha, absence d'initiative politique et diplomatique. Voilà. Donc il y a pas de doute. Et ça pose la question sur l'Ukraine et au-delà de l'Ukraine de la stratégie par rapport à Donald Trump. On peut essayer de l'amadouer. C'est ce qu'avait fait le premier ministre japonais, Abe. C'est comme ça qu'il avait obtenu des choses. On peut essayer, j'invente le mot, je crois, de transactionner. C'est les deals. Hein, c'est un peu ce à quoi se préparait Ursula von der Leyen. Il y a une troisième stratégie, c'est taper. Mike Tyson, puisqu'on a cité, on a commencé avec Bruno Retailleau, je cite Mike Tyson pour terminer, disait tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne une droite dans la gueule. C'est une métaphore.
Pour taper, Gilles, encore faut-il avoir préparé sa propre puissance pour avoir une droite qui ne soit pas une petite aile de papillon sur la joue.
Ou une gauche, pas de politique sur le sujet. Gilles, terminé.
Donc, je pense que l'Union européenne a des armes pour le faire, et peut-être un cadre aussi dont on a peu parlé, qui est le Conseil, je sais plus comment ça s'appelle,
la communauté politique
européenne, mais qui permet d'intégrer non seulement l'Ukraine, mais aussi le Royaume-Uni.
C'est ce dont je parlais tout à l'heure.
En effet. Et nous, on va continuer, habile transition, à suivre sur nos écrans toute la diplomatie de Trump, parce que c'est d'abord souvent comme ça qu'on découvre à l'échelle collective ce qu'il prépare pour demain.
France Inter, le grand face-à-face. Le débat.
Allez, place au débat du grand face-à-face. Et on accueille Servane Mouton, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes neurologue, neurophysiologiste et inquiète. Inquiète de l'omniprésence des écrans devant nos yeux et plus précisément devant les yeux de nos enfants et de nos adolescents. Vous avez publié avant-hier ce tract Gallimard au titre « On ne peut plus clair, écran, un désastre sanitaire ». Alors comment mesurer ce désastre? Comment aussi l'éviter? On va vous poser toutes les questions qui nous concernent, nous, personnellement, en tant qu'adultes, mais aussi en tant que parents parfois. Mais pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de partir à la rencontre de jeunes lycées à Épinay-sur-Seine.
Vous passez combien de temps dessus?
11h30.
11h38.
6h.
8h50.
Tous les jeudis, vous arrivez en cours de boxe, vous nous donnez votre temps d'écran, vous posez dans la caisse, vous allez mettre vos gants. Et le cours commence.
Donc, au-delà de 8h, vous êtes convoqué 3 heures en plus. Entre 6 et 8, vous avez 2 heures à faire. Et entre 4 et 6, vous avez 1 heure. Si vous êtes en dessous de 4 heures, vous n'avez pas de récupération d'écran à faire.
Alors, je vous ai vu réagir vivement devant les temps d'écran de ces élèves. On était là en janvier dans le journal de 20h de France 2 avec une expérimentation pour limiter le temps d'écran des élèves. On va revenir sur les moyens, mais d'abord les temps d'écran, et on ne parle que du téléphone ici, parce que dans le reportage qui suit, il y a après les jeux vidéo, la télévision de moins en moins, mais les tablettes, on est à plus de 10 heures par jour pour certains des élèves qu'on vient d'entendre. Alors on va d'abord se mettre, docteur, d'accord sur le diagnostic. Vous avez co-présidé la commission sur l'exposition des enfants aux écrans, qui a rendu son rapport en avril 2024 à Emmanuel Macron. Quel est l'état des lieux de notre exposition aux écrans? Combien de temps en moyenne passons-nous, nous adultes? Combien de temps passent nos enfants devant les écrans? Est-ce que vous avez des chiffres assez précis pour qu'on prenne la mesure de la chose?
En réalité, non. Parce que les chiffres assez précis dont nous disposons datent d'avant les confinements liés à la pandémie Covid.
Ah oui.
Donc ils sous-estiment sur ce que j'entends en tout cas aujourd'hui, clairement ils sous-estiment la réalité. Quand on dit à deux ans et demi, une heure de temps d'écran par jour, ce sont des enfants qui étaient nés en 2011, donc qui a deux ans, qui en 2013 avaient deux ans. C'est bien avant le confinement, et on sait que pendant les confinements, les temps d'écran ont augmenté chez tout le monde, et en particulier chez les plus jeunes, et que les familles ont eu bien du mal, voire même n'ont pas réussi à revenir aux usages antérieurs.
Je suis halluciné par ce que vous me dites. On parle d'écran matin, midi et soir, on a eu un sommet de l'IA qui a valorisé l'usage de l'écran, et vous me dites, on ne sait pas combien de temps on passe devant les écrans?
Il faudrait faire des... En fait, il y a plusieurs difficultés. D'abord, il faut des études scientifiques pour avoir des estimations fiable. Et puis ensuite, même les études scientifiques dont on peut disposer aujourd'hui, encore une fois qui datent d'avant le Covid, reposent essentiellement sur des questionnaires pour ce qui concerne notre pays.
Ouais.
Or, un questionnaire est forcément sujet à une certaine subjectivité. Donc il faudrait aussi, théoriquement, des outils de mesure pour avoir vraiment une évaluation précise et de la réalité.
Ça, je confirme, tous ceux qui ont des ados, quand vous leur demandez combien de temps ils ont passé sur leur écran, c'est pas absolument le temps réel passé sur les écrans. Vous êtes neurologue. Qu'est-ce que ça produit sur le cerveau de passer 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures par jour sur un écran?
Ça dépend de votre âge. Ce qu'il faut peut-être dire vraiment fortement, c'est qu'un enfant n'est pas un petit adulte. Un enfant est un être différent, dont le cerveau et le corps, globalement, est en train de se construire et de se former. Et à ce titre, en particulier, le cerveau est particulièrement sensible à la qualité de son environnement. Le cerveau de l'enfant, et quand je dis enfant, c'est enfant et grand-enfant, puisque jusqu'à 25 ans, le cerveau évolue et mature. Donc il est très plastique. Et cette grande plasticité fait qu'il va être aussi très vulnérable à un environnement qui serait de qualité dégradée. Donc, Donc le temps, la qualité de l'environnement va avoir un effet différent selon qu'on est un enfant ou un adulte. Et après, voilà, on peut rentrer dans les détails
Qu'est-ce qui se passe dans le qu'est-ce que ça produit dans le cerveau, en fait? Quand vous dites ça a un impact sur l'environnement et donc sur le cerveau, concrètement, qu'est-ce que ça produit?
Il y a plusieurs éléments qui sont difficiles, qu'on va séparer, je vais les séparer de façon un peu artificielle, parce qu'en réalité tout se fait un petit peu ensemble, mais dans les premières années de vie, en particulier pendant les 6 premières, mais en réalité ça continue encore après, mais les 6 premières années de vie sont vraiment extrêmement riches en apprentissage. Il y a tout ce qui est la motricité, la coordination des mouvements, le langage, les relations, c'est un festival un peu d'artifice d'apprentissage. Et pour ce faire, l'être humain qui est curieux de nature, qui est un explorateur de nature, va mettre en jeu tous ses sens pour explorer, et ceci va permettre une intégration des informations, la maturation des réseaux cérébraux, des réseaux neuronaux, les connexions, etc. Pour ça, les sens sont multiples. C'est l'ouïe, la vision, l'odorat, le toucher, le goût, mais aussi il y a le sens de l'équilibre, le sens de l'autre, l'empathie. Tout est en fait interconnecté. Vous mettez un écran devant un enfant petit, moyen, c'est 2 dimensions, des images, des sons, sur lequel il n'a aucune prise, dans le sens où le défilement des images se fait à un rythme, en l'occurrence, beaucoup trop soutenu. Pour un enfant de 1, 2, 3, 4 ans, les images vont beaucoup trop vite pour qu'il puisse traiter facilement ces informations. Et puis, c'est très pauvre. Il n'y a pas d'affect. Un écran n'aime pas un enfant. Un écran n'accompagne pas avec discernement et bienveillance un enfant. Il peut pas le manipuler. Il n'y a pas plusieurs textures. Enfin bref, c'est très pauvre. Donc, c'est un environnement appauvri par rapport à tout un environnement qui peut être extrêmement riche, et en plus un environnement qui impose un rythme, alors que l'enfant va lui avoir besoin d'expérimenter justement à son propre rythme. Même, je termine là, quand on lit un livre à un enfant, on peut voir que il y a une page qu'il avait envie de regarder plus longtemps, on va s'arrêter, on va revenir en arrière, il va la froisser, il va la palper. Si on lui met un dessin animé, ça s'enchaîne, et il va être en fait en situation de saturation cognitive. Il y a trop d'informations à traiter sans avoir les moyens de le faire. Son cerveau n'est pas prêt pour ça.
Donc quand vous entendez-vous que les écrans et l'IA, et on va y venir, permettent de produire un homme augmenté, vous dites attention, les écrans produisent un homme diminué?
Ça compromet, en tout cas sur un enfant et un adolescent, aujourd'hui il y a plutôt de grands signaux d'alerte qui disent que c'est que ça ne répond pas aux besoins d'un enfant et d'un adolescent, et que ça peut compromettre un développement qui soit optimal. Et concernant l'intelligence artificielle, on a déjà les algorithmes décisionnels et les algorithmes de recommandation qui sont de l'intelligence artificielle, et qui ont quand même été plutôt mis à profit, et d'une économie d'attention très délétère pour la santé physique, mentale, le neurodéveloppement. Et puis on n'a pas du tout d'éléments qui nous permettent de dire que ça pourrait augmenter les capacités d'un enfant d'être confronté à l'intelligence artificielle, plutôt des alertes pour dire que ça pourrait être le contraire, en effet.
Nos sens réduits, Gilles.
Je prolonge sur le constat. La lecture de votre tract, c'est saisissant, c'est consternant. Quand on arrive à la 20e page, on est anéanti. À la fois, nous consommons de plus en plus et de plus en plus jeunes, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais la tendance est claire, avec des effets catastrophiques, à la fois sur l'environnement que vous évoquez et sur la santé, et pas seulement sur le cerveau. Vous parlez à la fois des troubles visuels, vous dites qu'il y a une épidémie mondiale de myopie, de sédentarité avec les risques cardiovasculaires, d'altération du sommeil avec des choses extrêmement frappantes, y compris la simple présence de l'écran dans notre chambre la nuit vient altérer notre sommeil, la santé mentale, avec des effets plus catastrophiques encore pour les enfants et pour les jeunes. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il y a matière à nuancer ce constat ou pas? Est-ce que le problème est seulement, ou d'abord, le contenant, c'est-à-dire l'écran, ou est-ce que ça peut être le contenu? En d'autres termes, est-ce qu'il peut y avoir un bon usage des écrans? Est-ce que ça peut être aussi un outil de sociabilité selon la manière dont on le consomme, si on fait ça tout seul ou si on fait ça à plusieurs, et ce que l'on consomme? Bref, est-ce que le problème c'est l'écran, ou c'est seulement l'écran, ou est-ce que c'est aussi le contenu?
En somme, Servane Mouton, êtes-vous technophobe?
Alors, je vais répondre à la question, j'espère que ce sera repris de façon extrêmement massive sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas technophobe, je suis sans doute technocritique, mais technophobe, clairement, non. Et ça n'a pas vraiment de sens dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, sinon je ne sortirais... Même je ne serais même pas chez moi. Je pense que je me dissolverais dans l'univers. Alors ça dépend. Je vais essayer de répondre, mais il y a plusieurs niveaux de réponse à mon avis. D'abord, ce qu'on lit et ce qu'on entend régulièrement dans les médias, c'est que en effet il y a pas écran de façon globale. Il y a des bons, des mauvais usages, des contenus, des mauvais contenus, des bons contenus, des mauvais contenus. Bah oui et non, ce que vous avez cité sur les effets physiques des écrans, les effets d'écran sur la santé physique, c'est d'ailleurs ça, l'écran est un outil matériel qui, du fait de ses caractéristiques matérielles, a des effets sur la santé physique, quel que soit le contenu. Même si le contenu peut modérer certaines choses. Un écran est un outil sur lequel on a une activité sédentaire, quel que soit le contenu. Un écran va avoir des effets sur le sommeil, quel que soit le contenu, même si, parce que ça se fait par le biais de la lumière qu'il émet. Donc bien sûr, un contenu qui est excitant, une série haletante, des choses comme ça, vont être encore plus à favoriser l'éveil, donc à compromettre le sommeil, mais rien que la lumière déjà a un effet. L'effet sur la vision aussi, c'est la caractéristique physique, et c'est le fait qu'on y passe du temps à l'intérieur, donc au détriment de l'éclairage en lumière naturelle. Donc ça, c'est... On n'a même pas parlé encore du contenu, on a déjà les effets sur la santé physique. Et puis après, bien sûr, le contenu est important. C'est évident qu'un enfant de 10 ans qui est exposé à un contenu pornographique ou hyper violent ou à du cyberharcèlement, c'est pas la même chose que s'il regarde un documentaire sur les pharaons ou sur la nature, etc. Donc bien sûr que le contenu est important. Après, est-ce que ça peut être alors, je pense que c'est un outil d'information qui peut être formidable, et puis malheureusement aussi un outil de désinformation qui peut être formidable. Ouais. Mais... une grande partie des choses que j'ai apprises, ne serait-ce que sur ce sujet-là, oui, clairement, est passée par mon usage d'Internet, la mise en lien avec des gens que je n'aurais probablement jamais rencontrés, le partage de la littérature, littérature, c'est un mot qui n'est pas très approprié, mais la littérature scientifique, ouais, et voilà, se fait aussi en ligne, avec des moteurs de recherche qui sont spécialisés et qui sont accessibles par le net et qui facilitent beaucoup les choses. Mais, après, si on passe au niveau du dessus, une fois qu'on sait tout ça, qu'on a ces connaissances, qu'on sait qu'on est tous interconnectés, que nos actions ici ont des conséquences, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais à l'autre bout du monde, que cette technologie est extrêmement matérielle. Une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà.
Ben justement, Natacha.
Justement, c'est toute la question, parce que ce que vous citez dans votre livre, tous ces phénomènes-là, en fait, ils sont connus et documentés depuis très longtemps. C'est-à-dire que les premières études sur la télévision aux États-Unis datent de l'invention de la télévision. On y voit très clairement, par exemple, la baisse des échanges de vocabulaire au sein des foyers, et donc la perte de maîtrise du langage chez les enfants, parallèlement à la pénétration de la télévision dans les foyers. C'est vraiment extrêmement frappant. Ensuite, toutes les questions de violence, d'agressivité, d'impulsivité des enfants exposés à des écrans, tout ça aussi est relativement documenté. Et c'est extrêmement difficile, on a l'impression qu'on est obligé à chaque fois de reprendre le débat au début. Alors, il y a des experts systématiquement qui sont invités sur les plateaux de télévision. J'ai en tête un psychologue qui intervient à chaque fois sur ces choses-là, sans que personne ne précise qu'il a travaillé pour des marques de jeux vidéo, de... voilà, ce genre de choses. Donc ça s'appelle du lobbying. Mais est-ce que, justement, la difficulté à traiter politiquement, calmement, ce sujet-là vient du lobbying, ou est-ce que ça vient de la peur qui vient d'être exprimée là, d'apparaître comme, oui, réactionnaire, technophobe, etc. Est-ce que la dimension idéologique est trop puissante pour qu'on puisse tout simplement parler de santé publique calmement et tranquillement ?
Servane Mouton, peut-être d'ailleurs vous-même, vous avez commencé à le dire, hein, qu'il peut y avoir de la violence par rapport à vos propos. Vous sentez effectivement ce que dit Natacha ?
Alors, je n'ai pas l'impression d'avoir été pour l'instant très confrontée à la violence, mais je ne suis pas non plus très médiatique, donc je pense que j'ai été protégée.
Bienvenue.
Merci, jusqu'à présent. Je pense qu'en effet, c'est un mélange des deux. Je suis d'abord arrivée à me dire, c'est une histoire de lien d'intérêt systématiquement qui peut expliquer ce déséquilibre, en tout cas entre les messages qu'ils diffusent et l'absence de réaction en fait des pouvoirs politiques, par exemple, par rapport aux enjeux de santé, ne serait-ce que la santé physique. Et puis finalement, je pense qu'il y a aussi ce bain technosolutionniste dans lequel nous évoluons et dans lequel aussi certains experts évoluent. Peut-être que ma posture est technocritique du fait de, je sais pas, mon histoire, mon environnement, mes lectures, etc. Et puis que d'autres personnes de la même génération que moi vont être beaucoup plus technophiles, ont découvert le numérique avec beaucoup d'enthousiasme et ont été, voilà, des geeks, enfin voilà, des gamers, etc. Donc sont a priori plus enclins à y être favorables. Donc il y a aussi ça. Mais le lien d'intérêt économique, à mon avis, est un point quand même essentiel à souligner. Et à mon sens, il devrait être systématiquement presque demandé avant une interview d'un quelqu'un qui se proclame ou s'autoproclame ou est proclamé expert d'un domaine. Mais ça vaut pour tout. Mais...
Une question pour les adultes que nous sommes. Il y a un concept intéressant, j'aimerais que vous y reveniez, sur la technoférence. Mmh. En quoi est-ce que c'est important dans notre rapport aux jeunes et dans notre exemplarité aussi, parce qu'il y a là des choses qui se jouent, même si notre cerveau est terminé, l'addiction aux écrans est loin d'être terminée après 25 ans. Technoférence.
C'est probablement un des problèmes clés, en fait. Parce que, bien sûr, on peut communiquer et informer sur tous ces effets délétères, quoi, l'usage de l'écran par l'enfant et à tel âge, et donner des consignes. Mais, en fait, le problème est systémique. On ne pourra pas le résoudre. C'est un petit peu l'esprit de notre rapport remis l'an dernier. C'est de dire, on ne résoudra pas ce problème à coup de pas de, interdiction, oui. C'est pas bien, etc. Il faut justement prendre de la hauteur et voir que les parents sont englués dedans, pour des raisons économiques, d'économie de l'attention. Il y a une technologie extrêmement puissante qui est déployée pour qu'on passe le plus de temps possible et qu'on vienne se connecter le plus souvent possible parce que c'est rentable pour une poignée d'acteurs qui sont devenus extrêmement riches et extrêmement puissants. Donc il y a ça. Et puis le côté aussi très politique, en fait, puisque cette technologie est censée être un des moteurs de la croissance économique et qu'on en met partout, même sans avoir évalué sa pertinence. On en met dans l'éducation, on en met dans les transports pour acheter des billets, on en met pour les paiements, enfin, on en met partout. Donc, en fait, l'outil numérique, on peut peut-être... Enfin, on ne parle pas d'addiction à un téléphone, voilà, c'est pas censé, c'est pas comme ça. Mais est-ce qu'on peut parler d'addiction à un outil qui nous sert dans tous les actes de la vie quotidienne, qui nous est presque imposé dans son usage? Et donc, j'en arrive à la technoférence.
Merci.
Donc, les outils numériques étant tellement présents dans la vie des adultes, ils sont confrontés à deux choses. D'une part, l'enfant qui va voir son parent en permanence avec son téléphone dans la main va considérer que c'est finalement un usage normal. Donc il grandit avec cette image-là, arrive à un moment où quand on lui demande d'avoir un usage raisonné, réfléchi et parfois non connecté justement dans sa vie, il va dire pourquoi en fait je t'ai vu, j'ai grandi avec toi avec un téléphone greffé dans la main, donc ça va être compliqué. Et puis la deuxième chose, c'est que, et ça c'est beaucoup plus largement aussi problématique, c'est qu'au-delà de cette exemplarité, il y a cette petite phrase que je ne suis pas la seule à utiliser, c'est que l'écran fait écran à la relation. Quand on est parent avec un petit enfant qui sollicite l'attention et qu'on est capté parce qu'on a des notifications, l'enfant il demande et on est moins disponible, on a une réaction qui est moins appropriée parce qu'on est plus impatient, parce qu'on est dérangé dans quelque chose qui nous happe. Et ça va perturber le langage, l'attention, les capacités socio-relationnelles et la qualité de la relation parent-enfant.
Voilà qui est douloureux, je suis sûr, pour beaucoup de gens qui nous écoutent.
Je reviens sur le « que fait-on ?». On voyait dans les difficultés, on a évoqué le poids des lobbies, vous avez évoqué le bain technosolutionniste dans lequel nous baignons. Vous insistez beaucoup sur l'importance de la société et du débat à nouer dans la société sur la question des écrans, la nécessité d'avoir sans doute un débat sur à quoi sert chaque nouvelle innovation. Quelle forme ça peut prendre et est-ce que ça peut aller, puisque je fais le lien avec le précédent débat que nous avons eu dans le duel avec Natacha, est-ce que ce sont des questions qui peuvent être tranchées dans un référendum?
Alors, je pense que ce serait.
Un mouton.
Alors, je pense que ce serait intéressant, sur plusieurs points. Enfin, si on parle de choses qui peuvent être encore peut-être réfléchi collectivement, parce qu'il y a des choses qui sont, voilà, il faudrait revenir à d'autres pratiques, mais si on parle du déploiement de l'intelligence artificielle générative, par exemple, et ne serait-ce que du support physique sur lequel elle va reposer, des centres de données nouveaux, une consommation d'énergie totalement insoutenable, etc., qui est très peu discutée. En tout cas, et qui n'est pas mise sur la table parce qu'en réalité c'est un problème insoluble. On ne peut pas déployer l'intelligence artificielle générative telle qu'on le voudrait, et on n'aura pas les moyens matériels, en fait. Ça devrait être questionné. Et ça pourrait être l'objet d'un référendum, mais alors il faut que les gens soient informés avec des... Voilà,
avec des écrans
pour avoir des informations fiables sur lesquelles ils puissent s'exprimer.
Natacha.
On n'a plus beaucoup de temps dans l'émission, il faudrait parler des ambivalences de l'éducation nationale sur ce sujet-là. Mais il y a aussi un domaine que vous évoquez dans le livre, c'est la question géopolitique, justement. C'est-à-dire le fait qu'on efface toutes les conséquences qu'a notre consommation d'écran sur le monde, et en particulier la République du Congo, où on voit très bien que les ressources minières sont l'objet d'attaques monstrueuses, de crimes contre l'humanité, de choses depuis des années, dans le silence absolu de l'ensemble de la communauté internationale. Là aussi, comment peut-on faire émerger ce sujet-là et agir à notre échelle sur cette...
Servin de Mouton, on n'est effectivement pas dans l'immatériel.
Voilà, c'est du très concret. Ouais.
Et c'est quelque chose qui, en effet, alors je vais faire encore une petite déviation pour répondre à votre question, mais j'étais lundi au sommet pour la gouvernance de l'IA, une session qui s'appelle IA, qui était IA et enfance, dans laquelle nous étions 18 à nous exprimer en 45 minutes.
Un appel au ralentissement, à une réflexion approfondie et au respect d'une régulation exigeante.
Donc nous avions préparé un texte d'environ 2 minutes, et finalement je n'ai parlé qu'une minute. Google avait 3 minutes, et OpenIA en avait également 3 ou 4. C'est juste pour le côté géopolitique et influence, pour vous donner aussi le poids de l'industrie. Et avait été évoqué pendant cette session assez facilement et par d'autres intervenants les problèmes d'économie de l'attention, de neurodéveloppement, de sédentarité. Ça avait été évoqué. Ont été cités aussi, mais presque cités, le problème de la pédocriminalité. Je dis quand même ces chiffres parce qu'ils sont, pour moi, et restent hallucinants à chaque fois que je les dis. C'est 100 millions de contenus pédopornographiques qui sont découverts en ligne en 2023. 100 millions. 2,5 millions de cyberpédocriminels en ligne, donc cyberpédocriminels.
À quelle échelle, pardon?
Au niveau mondial. Et 40% d'entre eux vont passer à l'acte physiquement. 40% des 2,5 millions de cyberpédocriminels qui passeront à l'acte physiquement. C'est monstrueux. L'intelligence artificielle est un potentialisateur de toutes ces pratiques. Et puis c'est aussi cette matérialité, cette technologie qui est vantée comme étant verte, qui va sauver l'humanité de la crise climatique, de l'agriculture, des effets néfastes éventuellement de l'agriculture, va nous sauver de tout. En réalité, elle repose sur du matériel extrêmement lourd. Ce sont des métaux, des terres rares, de l'énergie, de l'eau, avec l'extractivisme qui est, on le sait depuis qu'il existe, extrêmement polluant pour l'environnement et destructeur pour les populations riveraines, etc. Et vous évoquez le Congo, et je vous remercie de le faire. Le Congo, c'est depuis 30 ans des conflits armés autour de l'accès aux métaux, qui sont un enjeu de richesse majeure et de pouvoir local, avec, on estime, 6 millions, c'est les chiffres de l'ONU, mais c'est plusieurs millions de morts, ce sont des centaines de milliers de femmes et de fillettes qui sont victimes de violences sexuelles, de mutilations. C'est abominable, et on n'en parle pas, et sans le Congo aujourd'hui, nous n'avons pas de technologie numérique dans nos vies.
J'ai une dernière petite question, peut-être personnelle. Vous avez des enfants? Oui. De quel âge?
9 ans. Fille.
Une fille. Est-ce qu'elle a le droit d'utiliser les écrans?
Elle a le droit d'écouter de la musique sur une tablette lorsque nous sommes là.
Et sinon, jamais d'écran?
Un dessin animé ou un documentaire avec nous, voilà. Mais c'est vraiment... je suis vraiment hyper, hyper restrictive. Enfin, nous sommes restrictifs, c'est vrai.
Et comment vous allez faire quand au collège, elle voudra un téléphone?
Elle n'aura pas de téléphone au collège. Pour moi, c'est vraiment le 15 ans... téléphone, vraiment...
Rien avant 15 ans.
Dans le rapport, nous avons écrit pas de téléphone avant 11, ok pour un téléphone avec connexion Internet, mais sans réseaux sociaux à 13, et à partir de 15 ans, ok pour les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux éthiques. En l'état actuel des choses, on n'est pas capable de faire un contrôle d'âge efficace.
Donc pas de réseaux sociaux,
Il n'y a pas de réseaux sociaux éthiques qui soient massivement utilisés. Donc, pour moi, le plus simple, c'est pas de smartphone avant 15 ans, clairement. Et puis avant... Quand vous parlez d'action sociétale, il y a des parents qui s'organisent, qui signent des chartes pour ne pas offrir de téléphone à leur enfant avant tel âge. Et de ce fait, l'enfant n'est plus isolé mais dans un groupe de pères
contre le fait que l'école leur réclame de participer sur des groupes WhatsApp.
Un autre sujet.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé, un peu inquiété aussi. On lira sur écran et surtout sur papier votre tract Gallimard, écran, un désastre sanitaire. Merci beaucoup Servane Mouton.
Il est encore temps d'agir.
Il est encore temps d'agir, bien sûr, même si parfois il est difficile d'enlever les écrans quand les enfants les ont depuis quelques temps. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier à la réalisation et aujourd'hui Fabrice Desmaz à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.